à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes en partenariat avec BFM. Quid Juris, vous le savez, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé comme chaque semaine avec Elsa France et Camille Sarrazin. Vous écoutez et vous regardez le 104e épisode de Quid Juris. Et cette semaine, l'actualité, c'est la réforme de la politique migratoire de l'Union européenne. La position du Parlement européen a été adoptée, votée le 26 mars dernier. Et cette réforme, elle prévoit quoi ? Elle prévoit des hubs de retour, des plateformes situées en dehors de l'Union européenne pour accueillir les migrants illégaux, dont notamment les déboutés du droit d'asile qui font face à une obligation de quitter le territoire. Alors, pour être adopté définitivement, le texte doit encore faire l'objet de négociations avec le Conseil de l'Union européenne, puis être voté une dernière fois par le Parlement européen. Mais vous l'avez compris, ce texte fait évidemment polémique, il fait débat, il pose de très nombreuses questions juridiques et politiques. Et pour tout comprendre, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un fin connaisseur de ces sujets. Bonjour Thibaut Florigraf.
Bonjour Laurent Neumann.
Vous êtes professeur de droit international public à l'université Paris-Panthéon-Assas, spécialiste reconnu des questions migratoires, du droit international des réfugiés et du droit d'asile. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de Coup de Juris et du Club des Juristes. Cette réforme de la politique migratoire de l'Union européenne, elle est donc appelée à remplacer ce qu'on appelle la directive retour de 2008, mais elle s'inscrit dans le cadre du pacte asile et migration qui a été voté en 2024. Alors, en deux mots, quel est l'objet de ce texte avant de dire pourquoi il fait débat ?
Je crois que c'est important de rappeler en effet que ce texte s'inscrit dans un ensemble d'autres textes adoptés il y a maintenant quelques années qui vont entrer en vigueur dans quelques semaines maintenant. Et ce texte en particulier, qui n'avait pas fait partie du pacte parce qu'ils n'avaient pas réussi à s'entendre sur ces questions-là, porte sur les questions qu'on appelle de retour, c'est-à-dire des étrangers qui n'ont plus le droit de se maintenir sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne et qui donc doivent le quitter. Et ce texte organise l'ensemble des procédures qui vont permettre d'éloigner ces personnes.
Alors, vous l'avez dit, il y a eu des tentatives précédentes autour de ce texte, cette question du retour, notamment en 2018. Il n'y avait pas de majorité. Là, il y a eu une majorité un peu inattendue qui alliait à la fois la droite conservatrice et l'extrême droite, plus quelques autres députés européens. C'est cette majorité politique qui a permis de voter le texte.
Absolument. Ça montre aussi une évolution politique plus globale où en 2018, on n'avait pas eu d'accord sur des mesures plus restrictives, plus dures, facilitant l'éloignement. On n'a pas réussi en 2018. On y arrive en 2026. Ça signale évidemment un raidissement très net sur ces questions-là.
Et des modifications des équilibres politiques issus des dernières élections européennes. Juste d'un mot, ce pacte asile et migration adopté en 2024, ce projet-là dont on va parler ensemble, il ne le remet pas en cause. En l'occurrence, il en poursuit la logique d'une certaine manière.
Absolument, il en poursuit la logique, c'est tout à fait le terme. Les textes qui ont été adoptés portent essentiellement sur les questions d'asile, donc quelles sont les conditions à remplir pour être reconnu réfugié, pour obtenir une protection subsidiaire, quelles sont les procédures d'asile, comment est-ce que les États vont gérer ces questions de migration et d'asile entre eux. Et c'est un texte qui déjà pose un certain nombre de conditions nouvelles qui rendent plus difficile l'accès à l'asile, qui facilitent la reconnaissance de décisions comme étant des décisions irrecevables. Et le prolongement de cela, eh bien, c'est d'éloigner plus facilement. Une fois qu'on aura plus facilement rejeté une demande d'asile, on pourra plus facilement les éloigner. Donc, c'est dans la logique complète de ce pacte.
On harmonise la législation, mais le prix de cette harmonisation, c'est un durcissement des conditions. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, oui, c'est qu'on prenne ce texte et qu'on essaye d'en voir toutes les modalités. D'abord, si j'ai bien compris, il prévoit un régime plus strict des procédures de retour, vous l'avez dit, assorti d'obligations accrues de coopération de la part des personnes concernées. Donc, il y a des instruments coercitifs contre ces migrants illégaux pour faciliter ou accélérer leur retour. C'est bien ça. On peut dire quels sont ces instruments ?
C'est ça. Alors, ce sont des instruments, disons, contre des étrangers en situation irrégulière, plus exactement. Et il faut peut-être préciser une chose. Vous avez dit harmoniser. Ça va au-delà, puisqu'une des spécificités de ces nouveaux textes, c'est que la plupart sont des règlements et non plus des directives. Ce sont donc des instruments qui sont d'application directe. Il n'y a pas de marge de manœuvre dans la transposition qui est laissée aux États. Et on a donc réellement un régime européen qui s'instaure. Et on voit aussi combien, de plus en plus, précisément, les élections européennes vont être destinées à peser sur ces questions de migration. Les différentes mesures sont donc surtout des mesures qui vont peser sur les questions de rétention et d'éloignement. Hein. C'est vraiment là où le texte qui a été, enfin la position du Parlement qui a été adoptée, change les choses par rapport à la directive.
Alors, prenons un exemple. Désormais, la rétention pourra durer jusqu'à 24 mois. Auparavant, c'était 6 mois renouvelable une ou deux fois, donc 18 mois maximum. Maintenant, c'est 2 ans.
C'est ça, 2 ans maximum, évidemment. Hein. Ce n'est pas la durée minimum, c'est la durée maximum. On a étendu de 6 mois ce qui était prévu dans la directive. Et surtout, parce que, par exemple, la France ne s'était jamais emparée de cette possibilité d'aller jusqu'à 18 mois. Maintenant, c'est dans le règlement, c'est d'application directe. Elle n'aura pas de choix que, dans certains cas, d'aller jusqu'à 24 mois. Et les possibilités, les motifs de placement en rétention ont également été très largement augmentés.
Ce texte restreint aussi l'effectivité du droit de recours contre ces décisions ?
Oui, je sais pas si c'est l'évolution la plus notable. Ce qui est notable tout de même par rapport au recours, c'est un délai qui est largement réduit, puisque je crois que le texte dit 14 jours, ce qui est quand même vraiment très court. Et par ailleurs, des possibilités accrues de ne pas permettre à la personne de se maintenir sur le territoire le temps du recours, c'est-à-dire une remise en cause du caractère suspensif de ce recours.
Oui, parce qu'en fait, il y a des mesures complémentaires à cet éloignement, donc des interdictions d'entrée, des sanctions en cas de non-coopération de l'individu concerné, des sanctions qui peuvent être administratives, financières, voire pénales. Ça, pour le coup, tout ça, c'est nouveau.
Ça, c'est nouveau. Ça, c'était pas dans la directive. Alors là, pour le coup, le règlement prévoit que c'est le droit national qui doit prévoir les peines, par exemple, qui s'appliqueront. Alors, attention, qui sont pas des peines pour séjour irrégulier, qui sont des peines pour soustraction aux mesures d'éloignement. C'est pas un rétablissement du délit de séjour irrégulier qui existait en France, mais qui avait été supprimé du fait, justement, de la directive retour de 2008. Ça ne le remet pas en cause. Mais il est évident que le régime se durcit et, par ailleurs, encore une fois, que la rétention est largement facilitée avec des motifs qui sont, par exemple, des motifs d'ordre public ou, dit le texte, si tout autre motif justifie la rétention. Donc, finalement, on voit mal ce qui viendrait s'intercaler entre la volonté d'éloignement et la subjectivité de l'État. Le placement en rétention sera quasiment de droit pour caricaturer un tout petit peu sous ce texte.
D'autant que les motifs de placement en rétention ont été élargis. Je lis le refus de coopération de l'individu, un risque de trouble à l'ordre public, la nécessité de procéder à des vérifications d'identité. Tout ça est suffisant pour justifier une rétention. Et surtout, et c'est ça peut-être le plus intéressant, c'est la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement. Pour faire simple, une décision qui sera prise en France, elle doit être appliquée en Espagne, en Italie, dans tous les pays membres de l'Union européenne. Ça, c'est aussi une nouveauté.
Absolument. C'est-à-dire, autant les États ont du mal à s'entendre pour répartir, par exemple, les demandeurs d'asile, quand on a un État qui subit une demande plus forte que d'habitude.
Ça, c'est les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce notamment.
Tout à fait. Et ça, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur un vrai mécanisme de solidarité. Autant dès qu'il s'agit de faciliter l'éloignement, là, on sent que l'accord est tout de suite beaucoup plus simple. Et désormais, en effet, c'était pas complètement impossible auparavant, mais c'était quand même très complexe. Désormais, une obligation de quitter le territoire prise en Espagne sera exécutable par les autorités françaises.
Alors, on comprend la philosophie générale du texte, c'est vraiment de durcir les conditions, y compris sur les motifs de rétention. Mais la mesure phare de ce texte, c'est la création de hubs de retour. Alors, hubs, on ne comprend pas forcément ce que c'est, mais en gros, ce sont des plateformes qui vont être situées dans des pays à l'extérieur de l'Union européenne et les pays membres pourront exécuter le retour si l'individu ne retourne pas dans son pays, on peut l'envoyer, l'expulser dans ces fameuses plateformes. Par contre, on n'a pas bien compris la procédure. Comment ça va marcher concrètement ?
Alors, je ne sais pas si pour l'instant on peut répondre à cette question dans la mesure où c'est encore assez largement des projections et des mesures qui évidemment ne sont pas en application. On sait par ailleurs que les quelques États qui avaient tenté déjà de mettre en place ce genre de procédure, l'Italie avec l'Albanie, le Royaume-Uni avec le Rwanda, n'ont finalement pas réussi à les mener à terme dans la mesure où ça pose un certain nombre de complexités procédurales et juridiques. L'idée globale est relativement simple. Pour faciliter l'éloignement qui, en l'état des textes, est compliqué parce qu'il faut trouver un endroit où éloigner ces personnes, c'est d'externaliser, de transférer à des États tiers la responsabilité d'organiser ensuite le statut de ces personnes. Donc, les États membres de l'Union européenne auront des accords avec des États tiers où ils pourront éloigner ces personnes sans difficulté, charge ensuite à ces États tiers de mettre en œuvre ces procédures. Ça soulève évidemment un assez grand nombre de questions.
Alors, notamment une, on va parler du problème des pays tiers, parce qu'il va bien falloir les désigner, passer des accords avec ces pays. Mais d'abord, un mot sur la procédure. J'ai lu le texte, j'ai rien trouvé à propos des obligations de l'État membre qui éloigne et de l'État qui accueille. J'ai rien trouvé sur les conditions de séjour. J'ai rien trouvé de quel est le droit applicable. Est-ce que c'est le droit de l'État membre qui expulse, de l'État qui reçoit, de l'Union européenne? On ne sait pas et on ne sait même pas s'il y a un organe indépendant qui est chargé de contrôler tout ça. Donc en fait, c'est extrêmement flou. Pour le coup.
C'est très flou et ça fait un moment que l'Union européenne a mis le pied dans ce genre de dispositif. C'était déjà vrai avec l'accord entre l'UE et la Turquie. C'est vrai avec certains accords entre l'Italie et la Libye, par exemple, qui se singularisent par leur difficile définition juridique, c'est-à-dire ces accords de réadmission, on ne sait pas exactement ce que ce sera, est-ce que ce sont des vrais traités internationaux, les formes que ça prendra, et surtout, et c'est ce qui est en effet inquiétant dans le texte, le HCR a aussi insisté sur cet aspect,
le
c'est
HCR, que
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, qui a pris des positions assez critiques, il faut le signaler sur ce texte du Parlement européen, le texte européen tel qu'il a été proposé là par le Parlement, renvoie à ces accords pour toutes les questions que vous avez soulevées. Au lieu d'en faire des règles qui sont déjà dans le texte et que les accords devront respecter, c'est dans ces accords qu'il faudra que les questions de droits humains, etc. soient
mobilisées. La seule chose que j'ai lue, quand même, il faut le dire, c'est que ces pays tiers, une fois qu'ils seront désignés, une fois qu'il y aura un accord, un arrangement d'État à État ou de l'Union européenne à ces États, il faut que cet État respecte les standards et principes en matière des droits de l'homme conformément au droit international. On est sûr que les États tiers vont respecter ce type de standard ?
C'est tout à fait la question, c'est la difficulté. Déjà, pourquoi évoquer ?
Je vous pose la question, je vais vous dire pourquoi la question. On a tous à l'esprit l'accord qu'avait passé l'Union européenne et la Turquie. Que je sache, les standards en matière de droits de l'homme, notamment en Turquie, ne sont pas conformes à ceux de l'Union européenne.
Absolument. Je crois que ce qui irrigue ce texte, comme d'autres, c'est un principe qu'on pourrait dire de défaussement. C'est-à-dire qu'on va se défausser sur ces États tiers. L'Union européenne va réputer que ces États respectent le droit international simplement parce qu'ils sont partis aux grandes conventions internationales. Et encore, le texte ne le dit pas explicitement comme ça. Mais ensuite, ne sera plus responsable de ce qui se passera et pourra rejeter la responsabilité en cas de violation des droits sur l'État tiers. C'est vraiment cette logique-là, en réalité, qui prévaut. Si violation il y a, ce ne sera plus l'Union européenne, ce sera l'État tiers. En tout cas, c'est la logique du texte. Évidemment, un dernier point, que ces États sont partis à ces grands traités, que ces traités comme le pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, c'est peut-être le meilleur exemple ici, ou la Convention contre la torture, protègent les personnes qui seront éloignées vers ces États. Mais la question centrale, c'est qui en assure le respect
et là, qui ira vérifier que ces conditions sont respectées. Mais c'est la question suivante que j'allais vous poser. Les États tiers, en l'occurrence, ça pourrait être qui? Franchement, on a du mal à voir. Et si on prend les exemples, vous avez cité l'exemple du Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne et de l'accord qui avait été passé au Rwanda, ça voudrait donc dire que ces États tiers pourraient être très éloignés de l'Union européenne.
La spécificité aussi de ces hubs de retour, c'est que On parle bien de renvoyer des étrangers dans des États où ils n'ont absolument jamais mis un pied. Il n'est pas question de désigner des États par lesquels ils auraient transité, des États où ils auraient de la famille.
Oui, c'est pas le pays d'origine, c'est pas le pays de transit, c'est pas un pays de leur choix, c'est un pays imposé avec lequel on a signé un accord.
C'est ça, absolument. Donc l'étranger n'a pas son mot à dire dans la désignation de cet État. Après, il peut faire valoir un certain nombre de droits, une atteinte à la vie privée et familiale, par exemple, hein, s'il y est renvoyé sans sa famille ou des choses de ce type-là. Mais il est certain qu'on a quand même un peu de mal à penser que les États vont se bousculer au portillon pour accepter ces hubs de retour, sauf à avoir une rétribution financière particulièrement importante ou diplomatique. Hein, c'était le cas du Rwanda. Pourquoi est-ce que le Rwanda est venu accepter cet accord avec le Royaume-Uni ? Parce que c'était beaucoup d'argent et parce que c'était lié à un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc évidemment, il y avait des intérêts. Et s'il y aura beaucoup d'États qui seront prêts à le faire, on peut quand même assez largement en douter. Et s'ils le font, à un prix extrêmement élevé, évidemment.
C'est ce qui s'était passé en 2016 entre l'Union européenne et la Turquie. La Turquie, on payait, les pays qui expulsaient vers la Turquie payaient pour chaque personne un montant que je ne connais pas, mais qui à l'arrivée faisait une ressource financière à la Turquie extrêmement importante.
Tout à fait, ressource financière et souvent aussi octroi de visa pour les ressortissants de l'État en question. Donc on monnaie l'acceptation des étrangers contre des visas et éventuellement des accords économiques, etc.
Alors, dernier point, parce que je veux qu'on fasse le tour de ce texte avant de voir pourquoi il suscite autant débat, mais vous nous avez déjà donné quelques pistes. L'Union européenne pourra désormais subordonner l'octroi de visas à la conclusion d'accords commerciaux et l'aide au développement conditionnée au niveau de coopération de ces fameux pays tiers. Mais ça, on l'a déjà essayé à l'échelle de chacun des États. Moi, je me souviens d'un ancien ministre de l'Intérieur qui avait dit à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, si vous ne donnez pas de laissez-passer consulaire, on va supprimer des visas. Or, pardon, ça n'a jamais fonctionné.
On pourrait dire que la plupart des mesures qui sont dans ce texte, d'une manière ou d'une autre, ont déjà été essayées. On a parlé de l'accord avec l'Albanie et l'Italie, le Royaume-Uni et le Rwanda, ça n'a jamais fonctionné. Les visas, la question de non-octroi de visa pour les États d'origine qui ne coopèrent pas, c'est dans la loi depuis 2024 en France, ça a été un apport de la loi de janvier 2024. Ça ne fonctionne pas, c'est pas suffisant, parce que c'est pas le nœud de la question, ce sont des mesurettes en quelque sorte, qui probablement, en termes d'affichage politique, payent beaucoup, en termes d'efficacité juridique, sont très marginales.
Alors, vous avez cité, pour être complet, l'exemple de l'Italie et de l'Albanie. Ça s'est terminé devant les juridictions italiennes et devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et même l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, lui aussi, s'est terminé devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans les deux cas, les deux procédures se sont arrêtées. Hein.
Bien sûr, parce que ce qu'il faut aussi bien comprendre et ce qui est souvent mal perçu, c'est que ces accords violent potentiellement beaucoup des droits des ressortissants étrangers, notamment le droit à la vie privée et familiale. Parfois, quand les conditions dans le pays d'accueil, si on peut appeler ça un pays d'accueil, sont particulièrement délétères, c'est de la violation de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, que la remise en cause de ces droits, c'est une atteinte à la sécurité de tout un chacun. C'est-à-dire que la logique des droits de la personne humaine, c'est de protéger tout être humain, quel qu'il soit, et ça s'applique que vous soyez en situation régulière ou irrégulière. Et en favorisant ce genre de pratique, on favorise la régression de la protection des droits de tout un chacun, vous et moi.
Alors, on vient d'examiner le contenu de ce texte. Vous avez commencé à déflorer un certain nombre des critiques qui sont adressées à ce texte. C'est la deuxième partie de Quid Juris.
Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Thibaut Fleury-Graff, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas.
Alors, je le disais, Thibaut Fleury-Graff, ce texte, il suscite énormément de critiques, mais il a aussi des défenseurs, des gens qui se sont trouvés à faire une majorité pour le voter. Et ceux-là, ils nous disent, c'est présent, écrit dans l'exposé des motifs, pour justifier ce durcissement, que seulement 20% des décisions d'expulsion qui sont prises au sein de l'Union européenne, 20% seulement sont exécutées, aboutissent réellement. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Et si oui, pourquoi 20% seulement ?
C'est en effet globalement vrai, je pense, hein, sur les chiffres. C'est même assez largement moins en France, puisque je crois qu'on est entre 10 et 20% à peu près en France. Ça vient d'une multitude d'obstacles à l'éloignement qui ne seront probablement pas réglés par ce texte. Il est certain que quand vous êtes face à une situation de ce type, on prend des décisions qu'ensuite on ne peut pas exécuter. Vous avez deux réactions possibles. Soit il faut améliorer l'exécution, soit c'est qu'on prend trop de ces décisions. Et en l'état, ce qu'il se passe dans la plupart des États membres de l'Union européenne, encore que la France se singularise de ce point de vue, c'est qu'on prend des décisions dont on sait qu'elles ne pourront pas être exécutées.
Alors, prenons un exemple. Vous avez pris l'exemple de la France. Il y a 130 000 obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, 130 000 par an. On sait qu'il y en a à peine 10% qui sont exécutés. Si ce texte européen venait à s'appliquer, on a du mal à voir comment la France pourrait envoyer vers des pays tiers 100 000 personnes chaque année. Rien que le chiffre fait presque sourire, on se dit bah, il y aura un texte, il y aura un cadre, mais on ne pourra pas l'appliquer.
Absolument, ça suppose qu'on ait ces accords qui soient adopté, qu'ensuite ces accords fonctionnent, et là vous ne parlez que du cas français, là on parle de hub de retour à l'échelle européenne, c'est-à-dire tous les États membres pourraient renvoyer vers ces États-là.
On sait d'ailleurs combien de personnes ça pourrait représenter à l'échelle européenne ?
Non, précisément, je ne sais pas, parce que ce serait très compliqué à dénombrer, parce que ça suppose d'identifier les personnes qui sont en situation régulière et qui sont éloignables, donc c'est vraiment très difficile à décompter. On peut peut-être préciser à ce stade qu'on parle d'un phénomène qui est relativement marginal. À l'échelle de la population européenne, on est sur des chiffres, quand bien même on prendrait les échelles qui sont les plus hautes, qui vont être citées par les partis qui ont voté pour ce texte, on est bien en dessous d'1% de la population européenne. Donc ce sont vraiment des chiffres qui sont très bas. Il n'empêche que ça représente des centaines de milliers de personnes et qu'on voit mal, en effet, des États tiers accepter des centaines de milliers de personnes sur leur territoire.
Enfin, il y a eu en 2016 des centaines de milliers de personnes en Turquie, par exemple, au moment où cet accord entre l'Union européenne et la Turquie, et d'ailleurs pas seulement avec la Turquie, avec d'autres pays de la région, fonctionnait.
Oui, alors je ne suis pas sûr quand même qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui étaient éloignées de la Grèce
vers
la Turquie.
Voilà, ils ne venaient pas de l'Union européenne, mais on a vu d'autres pays, notamment dans cette région du monde, envoyer des ressortissants qui ne devaient pas être dans ces pays vers la Turquie.
Ouais, il faudrait voir les chiffres précis. Il y a eu énormément d'immigration, notamment en provenance de la Syrie vers la Turquie, ça c'est sûr. En revanche, après, sur l'éloignement, je pense qu'on est quand même sur des chiffres qui sont inférieurs. Et encore une fois, si on prend à l'échelle de l'Union européenne, on démultiplie les chiffres. D'où le fait, comme je le disais tout à l'heure, que c'est assez largement de l'affichage politique. On peut prendre date et se revoir d'ici 2-3 ans pour faire le point. Je ne suis pas sûr que ça aura fondamentalement changé les choses.
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ONG, les organisations non gouvernementales, sont extrêmement sévères avec ce texte. Elles disent, en gros, au lieu d'investir dans la sécurité, la protection, l'inclusion, l'Union européenne choisit des politiques qui vont plonger davantage de personnes dans le danger et l'insécurité juridique. Cette phrase que je viens de citer, c'est un propos militant où il y a un fond de vrai et c'est la réalité.
Ce qui est une réalité, c'est que plus vous renforcez les possibilités d'éloignement à l'égard de personnes qui ont des droits et que vous les marginalisez, plus vous placez des personnes dans des situations qui, juridiquement, administrativement, sont extrêmement complexes, sans régler la question centrale qui est où vont aller ces personnes, qui sont des personnes comme vous et moi, qui ont simplement franchi une frontière. On est tous les étrangers de quelqu'un. Hein. Il suffit de passer un mètre, une frontière, et on devient un étranger. Alors qu'on sait aussi, et ça, il y a plusieurs études qui le démontrent, en particulier vu la démographie européenne, vu l'économie européenne, que ce sont plutôt des politiques de régularisation, et c'est pas du tout militant ce que je dis. Enfin, on voit ce que fait l'Espagne, et je renvoie les auditeurs,
alors,
les spectateurs.
Alors, je vais le dire à votre place, mais l'Espagne un gouvernement de gauche, Pedro Sanchez, c'est 500 000 titres de séjour, donc 500 000 étrangers régularisés. Mais je pourrais prendre l'exemple de l'Italie, et là, on n'est pas du tout avec un gouvernement de gauche, c'est un gouvernement de la droite extrême, c'est Giorgia Meloni, qui a fait la même chose pour 400 000 étrangers qui n'avaient pas de titre de séjour. Donc, c'est intéressant parce que pour des raisons démographiques liées au marché du travail, certains pays qui ont des colorations politiques différentes le font.
Il y a une espèce de schizophrénie des États européens, et c'est vrai que l'exemple italien est particulièrement parlant, puisqu'après avoir mené une campagne très anti-immigration. On a vu qu'il y avait pas mal de régularisations en centaines de milliers en Italie. Donc, il y a un peu là deux poids, deux mesures en fonction d'un affichage européen et ensuite de ce qui va se passer au niveau national.
Alors, je disais que les ONG étaient vent debout contre ce texte. Ça va très loin parce que certaines disent que ces mesures rappellent celles utilisées par l'ICE aux États-Unis, Immigration and Customs Enforcement, c'est la fameuse agence d'immigration controversée, on dit que c'est l'agence d'immigration de Donald Trump. Certains parlent même d'une potentielle traque policière des personnes exilées. Honnêtement, ce texte, il dit ça? On en est vraiment là?
Non, je ne crois pas que ce texte aille jusque-là. Il y avait des mesures, justement, qui allaient davantage dans ce sens-là, hein, qui permettaient cette traque, qui, elles, ont été retirées du texte final. Donc, je crois que ce serait aller trop loin, au-delà du texte, que d'affirmer cela. Après, on pourrait dire que ce que démontre aussi l'ICE, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin des textes pour mettre en place ce genre de pratique. Et ça suppose évidemment des dirigeants qui préfèrent leur propre moralité au respect du droit. Mais le texte, en l'état, ne va pas jusque-là.
Attendez, moi j'ai sous les yeux ce que disent les ONG. Elles prétendent qu'il y aura des perquisitions dans les domiciles privés, des opérations de maintien de l'ordre dans les espaces publics, du profilage racial, des obligations de signalement imposées aux autorités publiques, l'utilisation accrue des technologies de surveillance. Et puis de l'autre, il y a la Commission européenne qui répond « pas du tout, c'est des mesures efficaces et proportionnées, on promet qu'il n'y aura pas de descente dans les espaces publics et privés, ni profilage, ni technologies de surveillance ». Vous avez lu le texte. Je dois croire qui ? Les ONG et la Commission européenne ?
Je pense que, comme souvent, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire que chacun, évidemment, tire un peu de son côté. Ce qui est
Peut-être qu'il y a débat, parce que le texte, en l'occurrence, et vous avez commencé à le suggérer, le texte n'est pas complet. Il ne dit pas tout de la manière dont tout ça va s'organiser.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que quand on a dit au début que les motifs de placement en rétention étaient largement ouverts, la question de l'absence de coopération, le fait que tout motif qui justifierait la rétention permet de placer en rétention, c'est évidemment éminemment subjectif. Et le juge qui devra contrôler ce motif aura des difficultés à trouver des éléments objectifs pour justifier le placement en rétention. Donc là-dessus, clairement, les inquiétudes des ONG se glissent dans cette possibilité-là. Lors d'une interpellation, il sera finalement assez facile de dire refus de coopérer, placement en rétention, d'autant que la directive prévoyait que la rétention, c'était normalement la mesure de dernier recours. Ça, le nouveau règlement a supprimé cette phrase qui était importante en pratique. En revanche, et là, sur ce point, on peut suivre la commission, on ne met pas en place un nouveau dispositif de perquisition administrative, de profilage racial. Ce n'est pas le cas de ce texte, ce n'est pas son objet, très clairement, et ce serait censuré par la CJUE, le cas échéant.
Ce qui est sûr, c'est que les difficultés structurelles à renvoyer des étrangers qui n'auraient rien à faire sur le territoire français, aucune de ces raisons structurelles ne sera traitée par ce texte. Vous avez pris l'exemple des laissez-passer consulaires, l'exemple aussi des services qui doivent s'occuper de cet éloignement et qui sont très largement sous-dotés. Là, pour le coup, le texte ne dit rien sur ces deux aspects-là.
Absolument. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, et ça, c'est l'autre volet, surtout dans les autres textes du pacte qu'on mentionnait auparavant, c'est celui de l'externalisation, cette fois, du contrôle migratoire, c'est-à-dire comme l'Union européenne, les États membres sont assez conscients qu'il est compliqué d'éloigner pour la raison que vous venez d'évoquer, que ne résout pas ce texte. Il y a tout aussi une ingénierie juridique qui s'est mise en place pour éviter que ces personnes n'arrivent en situation irrégulière, cette fois en transférant à des États tiers le soin de mieux contrôler leurs frontières extérieures.
Mais je voudrais quand même rappeler un chiffre que vous connaissez, évidemment. Il y a plus de 3200 personnes qui sont mortes ou portées disparues en tentant de rejoindre l'Europe en 2025. C'est plus de 82 000 migrants qui sont décédés ou portés disparus sur les 10 ou 12 dernières années. C'est 34 000 en Méditerranée. Le lundi dernier, c'était pas vieux, il y a quelques heures avant l'enregistrement de ce podcast, 70 migrants ont été portés disparus en Méditerranée centrale. Est-ce que ce texte va, comment dire, inciter tous ces candidats à l'exil, tous ces candidats au départ, à ne plus venir dans l'Union européenne? Parce que c'est ça qu'il y a derrière ce texte, c'est ça que se disent ceux qui l'ont voté. C'est qu'au fond, on durcit tellement que de leur pays d'origine, ils vont réfléchir à deux fois à venir chez nous. Mais est-ce que c'est vrai, ça ?
La réponse est assez simple. Depuis combien de temps est-ce qu'on a des textes qui restreignent les questions de migration et qui facilitent l'éloignement ? Depuis très longtemps maintenant. On en entend parler quasiment tous les ans. On a un nouveau texte. Là, c'est le texte de l'Union européenne. Avant, c'était la loi de 2024. Ça se multiplie. Est-ce que pour autant, ça a véritablement changé les choses en matière de flux migratoires, etc. ? Non, parce que ça vient de raisons structurelles, vous l'avez dit, d'une multiplicité de raisons. On sait que le changement climatique va provoquer des arrivées de personnes étrangères qui, tout simplement, n'ont plus d'endroit où habiter. Que disent les textes européens sur cette question ? Rien, alors qu'on sait que ça va arriver. Donc, de manière assez claire, c'est pas un argument et ce sera pas une mesure efficace de ce point de vue-là.
Je veux pas finir cet échange avec vous sans vous poser une question d'actualité. C'est un peu la vertu de Quid Juris, qui n'a rien à voir avec ce texte d'ailleurs. Mais il se trouve que la Ligue des droits de l'homme a obtenu qu'un juge soit bientôt saisi pour enquêter sur l'eurodéputé Rassemblement National Fabrice Leggeri, qui est l'ancien directeur de Frontex. C'est l'agence européenne qui s'occupe de ces questions migratoires. Et Fabrice Leggeri est accusé par la Ligue des droits de l'homme de complicité de crimes contre l'humanité et de torture pour avoir mené, je mets des guillemets, une chasse aux migrants. L'agence de l'Union européenne, en l'occurrence, qui est chargée du contrôle des frontières. Qu'est-ce que vous pensez, vous, le spécialiste de ces questions migratoires, d'une telle procédure ?
Alors, je pense qu'elle soulève un certain nombre de difficultés procédurales, en particulier parce que M. Leggeri est protégé par certaines immunités, à commencer actuellement par son immunité en tant que député européen. Il y a aussi des immunités qui s'appliquent
quand il était directeur de Frontex.
Quand il était directeur de Frontex, absolument. Néanmoins, je pense aussi qu'il est quand même rassurant de voir qu'une personne soupçonnée d'avoir commis des actions particulièrement graves, particulièrement attentatoires aux droits de la personne humaine, attentatoire aussi au droit pénal, hein, tout simplement, français, puisse craindre des poursuites, tout ça étant sur le fondement de textes, il faut le rappeler, que les États ont volontairement adopté. On ne fait que demander aux États de respecter leurs droits.
Cette affaire, évidemment, on pourra continuer à la suivre sur le site du Club des juristes, comme le parcours de ce texte européen qu'on a évoqué ensemble, puisque on n'en est pas encore à l'adoption. Il y a encore en trilogue des discussions qui vont avoir lieu jusqu'à un vote final par le Parlement européen. Mais en tout cas, merci infiniment de nous avoir éclairé sur ce texte. Voilà, Quid Juris, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ce podcast, vous pouvez le retrouver sur la plateforme de notre partenaire BFM, sur le site du Club des juristes, évidemment, et sur toutes les plateformes de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 105e numéro de Quid Juris. Bonne semaine à tous.